Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masri Kabissimo.
Au sommaire de cette édition, plusieurs passagers portés disparus, c'est le bilan de l'effondrement du pont sur la rivière Louvois lors du passage d'un camion dans le secteur de Bapende, situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Chicapa. Nous sommes dans la province du Kasaï. Réhabilité depuis le mois de juillet 2022, 255 magistrats vivent dans des conditions extrêmement difficiles puisqu'impayés. Dans un mémorandum, ils demandent au président Félix Tshisekedi d'intervenir au plus vite puisqu'ils n'en peuvent plus. Notre invité, c'est le président du comité scientifique d'élaboration de la justice traditionnelle en RDC, le professeur Emmanuel Luzolo Bambi, qui a remis hier le document y afférent au gouvernement, affirme que tout sera fin prêt au mois de juin prochain. Madame, messieurs, bonsoir. Au Kasaï, un camion a occasionné l'effondrement du pont jeté sous la rivière Louvois dans le secteur de Bapende et les passagers qui étaient à bord sont portés disparus. Le drame a eu lieu hier à une quarantaine de kilomètres de la ville de Chicapa, selon des sources locales. La nouvelle est confirmée par le ministre des Travaux Publics, le ministre provincial des Travaux Publics qui revient du lieu. Henri Ditunga s'est confié à François Kadima.
Il y a eu un camion qui avait transporté 70 barres de fer, presque 10 tonnes de caillasse, 100 sacs de ciment, donc la construction d'un centre de santé en Guindy. Mais arrivé au pont, il y avait à bord, dans la cabine disons, 5 personnes. Les 1000 convoyeurs étaient à la carrosserie, ils suivaient les mouvements. Lui venait à pied, donc au milieu du pont, le pont s'est effondré et le pont, et le véhicule, même les gens qui y étaient à bord de ce véhicule, tous dans l'eau. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons trouvé aucune trace. C'est-à-dire, pas même le résidu du pont, pas même le véhicule ne se faisait voir. Nous sommes rentrés un peu tard la nuit, ici à la ville de Chicapa. Nous devons conseiller nos chauffeurs. Quand ils ont déjà dit, ils ne comprennent personne. Si il peut revenir à la déontologie des conducteurs, c'est bien. Aussi, ne pas dépasser la charge.
Dans la province du Kwango, pendant 7 ans, il n'y a plus de trafic sur le tronçon routier compris entre Kasongolunda et Popokabaka. À la base, la route est coupée par une tête d'érosion occasionnée par les récentes pluies diluviennes. Le cadre de concertation de la société civile locale plaide pour l'intervention urgente du gouvernement central afin de réhabiliter ce tronçon d'intérêt économique. À Bandundouville, Irène Boma.
Selon les cadres de concertation provinciale de la société civile du Kwango, c'est au niveau de l'entrée de la cité de Kasongolunda, chef-lieu du territoire portant le même nom, que la RN16 est coupée en deux. Il est de cela plus de 4 jours. Il s'agit du tronçon compris entre Popokabaka et Kasongolunda, menant jusqu'à Tembo qui fait frontière avec l'Angola. Symphorien Kwengo, premier vice-président de cette structure qui alerte, indique que ce sont des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps sur cette partie de la province du Kwango, qui ont provoqué la rupture du trafic sur cet axe routier. Il en appelle à la responsabilité des autorités compétentes pour la réhabilitation de cette route d'importance capitale sur le plan économique.
Il y a une érosion qui a fait que la route est complètement bloquée. Maintenant, les gens travaillent petit à petit pour pouvoir dégager la route. Nous demandons au gouvernement provincial et au national d'intervenir urgentement pour mettre les moyens qu'il faut pour que la route soit praticable. La Songoulou est coupée du monde. Sur le plan économique, les paysans ont des difficultés pour évacuer leurs produits agricoles et ceux qui vendent ont des difficultés pour vendre, les commerçants.
Précisons que la RN16 relie aussi les territoires de Kasongolunda à la ville de Kenge, chef-lieu du Kwango, à la ville de Kikwit, au Kwilu et Kinshasa, la capitale. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Résiliation cette semaine du contrat de travail entre l'Office de voirie et drainage OVD et l'entreprise chinoise Crexet dans le cadre du projet Chilegelou pour réhabiliter et moderniser 25 km de la voirie de Mbujimayi. Nous sommes au Kasaï oriental. Annonce faite ce mercredi par le président du conseil d'administration de l'OVD à l'issue d'une mission qu'il a conduit dans le Grand Kasaï. Martin Chipama affirme avoir constaté sur place la lenteur acteurs dans l'exécution des projets exécutés par Crexet à Kananga et à Mouenéditou, il a dit à Esterne Dalafina.
Le magistrat suprême de ce pays a pris la décision, dans le cadre de Tshilegelu, de résilier le contrat qui nous liait à Crexet. Ils ont reçu la lettre. On leur retire tout ce qu'ils avaient dans le cadre de Tshilegelu et nous allons trouver une autre entreprise pour prendre les choses en main. Nous avons déjà beaucoup de demandes, mais cette fois-ci, nous voulons désigner une entreprise qui a un équipement, des engins routiers et qui a des disponibilités déjà ici en Mbujimayi. Surtout en ce qui concerne Mbujimayi et à Kananga, même. En ce qui concerne Mouenéditou, là aussi, Crexet n'a pas bien fait son travail. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont fait que 600 mètres sur 5000 mètres. À Kananga, Crexet m'a dit, oh, nous avons 20 000 sacs de ciment en Angola. Nous sommes en train de faire venir ce ciment-là par route, en passant par Kalambambouji. Tout cela s'est avéré pas tout à fait exact. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour que cette résiliation n'impacte pas le délai de réalisation.
Dans l'actualité, il y a également ces affrontements survenus hier soir et ce matin entre les rebelles du M23 et une milice locale d'autodéfense à Kisimba, au nord d'un groupement de Rusayo à la limite entre les territoires de Nyiragongo et de Masisi dans le parc national de Virunga. Nous sommes là au nord Kivu. Les sources de la zone font état de plusieurs civils qui ont été tués pendant les combats. Explication de Noël Aluzitu Kabambi.
C'est aux environs de 23 heures locales que les combats ont éclaté à Kisimba entre les rebelles du M23 et une milice locale dont le nom n'est pas connu. Plusieurs témoins dans la zone renseignent que les affrontements sont survenus lorsque les rebelles du M23 voulaient dépasser les positions de cette milice dans ce village situé au nord du groupement de Rusayo. Plusieurs personnes à la recherche de charbon de bois dans la zone auraient été prises en étau et tuées par les tirs croisés des belligérants, témoignent les quelques combattants blessés admis dans les structures médicales situées dans ce secteur, à en croire les sources de la société civile du territoire de Nyiragongo. Sur le front sud, dans le territoire de Nyiragongo, des sources concordantes confirment avoir aperçu depuis hier mardi dans la soirée plusieurs colonnes des rebelles lourdement armées dans le village Ngobera, dans le groupement de Kibumba. Ces derniers, précisent plusieurs témoignages, se sont dirigés vers la colline stratégique de Tchato où ils ont érigé leur campement près de la colline des Hehu. Sur le front est et ouest, un calme apparent s'observe à Katuguru, à une dizaine de kilomètres de la cité de Kiwanja, après les accrochages d'hier mardi entre les rebelles et la coalition des deux milices locales du collectif des mouvements pour le changement et les Mai Mai Nyatora. Enfin, sur le front nord, une accalmie s'observe dans la zone environnante du pont Mabenga, actuellement assiégée par les rebelles.
Merci Noël Aluzitu Kabambi pour ces précisions. Restons au nord Kivu où une baisse des cas de choléra est observée ce jour-ci dans les camps des déplacés de Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo. Le bilan dressé par les responsables de la zone de santé fait état de 16 décès en l'espace d'un mois sur 3054 cas documentés. Le point focal chargé de la surveillance épidémiologique affirme à Radio Kapi que les statistiques des patients passent de 80 à 40 cas par jour. À Goma, Bernardine Diambou.
La coordination dans la zone de santé de Nyiragongo se réjouit de l'implication du gouvernement provincial avec ses partenaires comme MSF Belgique et Hollande, MEDER, OMS et autres organisations internationales qui œuvrent dans les domaines pour leur implication dans la lutte contre cette maladie de main sale. Mathieu Zabona, point focal chargé de la surveillance épidémiologique dans la zone de santé de Nyiragongo, dit que la situation évolue vers la stabilité.
Depuis que nous avions commencé, on était même à 80 cas par jour. Mais actuellement, nous sommes en train vraiment d'aller mollo à la baisse. Nous sommes maintenant à une moyenne de 40 cas par jour. Nous évoluons vers la stabilité. C'est vraiment un grand pas. Et nous sommes toujours en train de surveiller.
Rappelons que c'est depuis le 14 décembre dernier que l'autorité provinciale du Nord Kivu avait déclaré l'épidémie de choléra dans les territoires de Nyiragongo. Dès lors, une prise en charge adéquate avait été mise en faveur des patients. Toutefois, des efforts sont encore à fournir pour mieux maîtriser cette épidémie dans les sites déplacés, mais aussi éviter sa propagation vers les ménages de Goma, les plus proches du territoire de Nyiragongo. C'est notamment dans la zone de santé de Karesimbi où on a déjà notifié deux cas. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Le caucus des députés provinciaux condamne le massacre de 23 civils dimanche dernier lors d'affrontements survenus entre les miliciens de la CODECO et ceux de Zaïre à Drodro, à Bloukwa, à Largou et à Lissa dans le territoire de Djougou. C'est confié à la presse hier après-midi à Bounia. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri a dénoncé le non-respect des accords de Nairobi 3 signés par les leaders du groupe armé CODECO. Siméo Banga Tchombe a également fustigé l'inefficacité, selon lui, de l'état de siège. Il est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Les degrés de l'animalité sauvage et des banalisations de vies humaines reprennent encore en Ituri. Quel durcissement et inconversion de cœur, quelle banalisation de vies humaines. D'où vient encore ce regain de violence en Ituri? Vous qui êtes engagés dans le processus de paix, à quoi aura-t-il servi vos rencontres de Kenya et vos engagements unilatéraux de cessation des hostilités? L'Ituri attendait sur la fin des exactions ou de l'insécurité. L'Ituri attendait à ce que les gouverneurs disent si combien de groupes armés il a déjà neutralisés, qu'est-ce qui lui manquait pour faire accord mieux. Et l'État est venu au chef de l'État de signer une ordonnance supprimant celle décrétant l'état de siège. L'Ituri a besoin de la paix et cette paix est possible.
Poursuite actuellement de l'identification et de l'enrôlement des électeurs à Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu. Plusieurs habitants se déplacent pour cela vers des territoires voisins à cause notamment de la lenteur de cette opération et des irrégularités constatées sur le terrain. Ils escomptent s'enrôler facilement à cause notamment du faible taux de démographie, ce qui décourage le secrétaire exécutif de la CENI, Jean-Robert Mouyensé. À Bandunduville, des précision avec vous, Irène Boma.
Obtenir sa carte d'électeur dans la ville de Bandundu actuellement exige des sacrifices énormes. Il faut d'abord se réveiller à 3h ou 4h du matin pour arriver au centre d'inscription afin d'y recevoir les jetons qui permet aux requérants d'accéder pour se faire enrôler. Malgré cela, il faut passer encore plusieurs journées entières dans des longues files d'attente avant d'y parvenir. C'est ce qui pousse certains habitants impatients de se rendre dans les villages environnants tels qu'Adima à 12 km de Bandundu et Ito à 18 km ou dans d'autres territoires comme Bagata et Bulungu pour recevoir leur carte d'électeur.
Nous avons décidé d'aller nous faire enrôler en Duma parce que si on attend seulement à Bandundu, avec cette façon de faire là, nous allons rater l'enrôlement.
À Duma aussi c'est lent, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai fait l'enrôlement en un jour.
Le CEP de la CENI Kwilu, Jean-Robert Mouyens, qui dit être au courant de cette situation, déclare ce qui suit.
Ceux qui quittent leur quartier pour aller se faire enrôler très loin ne pourront pas voter dans leur lieu de résidence. Ils seront en train de retourner là où ils se sont fait enrôler, ce qui n'est pas évident. Donc nous déconseillons.
Notez que dans la ville de Bandundu, plusieurs personnes n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Justice à présent, les 255 magistrats réhabilités depuis le 30 juillet 2022 n'ont toujours pas été payés. Dans une déclaration faite ce mercredi à Radio Okapi ici à Kinshasa, ils affirment avoir adressé pour cela un autre mémorandum au président Félix Tshisekedi Tshilombo pour que leur situation soit décantée. Ces magistrats disent vivre ces jours-ci dans des conditions extrêmement difficiles. Des précisions avec la magistrate Félicité Kikachabani, substitut du procureur de la République public et trésorière du syndicat des magistrats pour la justice. Des propos recueillis par Alain Rongmouchige.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Le syndicat des magistrats pour la justice vous présente ses vœux de paix, de bonheur et de succès pour l'an 2023. Profitant de l'occasion, il rappelle à votre excellence que ses membres magistrats réhabilités en juillet 2022 ne sont toujours pas payés ni remis en service. Une situation que les syndicats considèrent comme une violation des droits de l'homme, car le salaire a un caractère alimentaire. Ils sollicitent à nouveau votre implication personnelle en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pour une solution idoine au profit de ses membres. Nous vous remercions.
Actualité internationale.
Au Bénin, la Commission électorale nationale indépendante égrène actuellement les résultats des élections législatives organisées dimanche dernier au pays. Selon les résultats provisoires qui ont été publiés ce mercredi, trois partis politiques auront des sièges dans la nouvelle Assemblée nationale. L'Union progressiste, le renouveau de la mouvance présidentielle, obtient 37% des suffrages, tandis que le Bloc républicain, qui lui est proche, a recueilli 29%. Les partis, les démocrates, de l'opposant Yayi Boni fait son retour à l'Assemblée nationale avec 24 voix. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rendra très prochainement en France, le 10 mars très précisément, à l'occasion d'un sommet franco-britannique sur la sécurité, l'énergie et l'immigration. Selon l'Élysée, il s'agira de la première rencontre de ce type depuis 2018. Ce sera l'occasion d'approfondir davantage la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, du climat, de l'énergie, de l'économie, des migrations, de la jeunesse et de la politique étrangère. Et puis, des soldats ukrainiens seront formés bientôt et entraînés aux États-Unis d'Amérique. Leur formation portera essentiellement sur les maniements du système des défenses antiaériennes, le plus sophistiqué de l'arsenal américain que les États-Unis d'Amérique ont décidé de fournir à l'Ukraine après des mois et des demandes de Kiev et des débats à Washington.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du comité scientifique chargé de l'élaboration de la politique de la justice transitionnelle en RDC, le professeur Emmanuel Louzolo-Bambi, qui a remis hier le document y afférent au gouvernement à travers le ministère des droits humains, affirme que tout sera fin prêt au mois de juin prochain. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Professeur Louzolo-Bambi, bonjour.
Bonjour, cher Jeff.
Vous avez présidé le comité d'élaboration d'une politique nationale de justice transitionnelle. Vous venez de rendre compte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rapport final?
Le rapport final part d'abord du constat. Le constat, c'est la violence structurelle dans notre pays. De l'indépendance, tous les régimes politiques avérés, aujourd'hui, avec la guerre qui sévit encore à l'est dans notre pays. Une violence structurelle qui a beaucoup de causes, certes, mais qui a provoqué beaucoup de dégâts, évalués en termes approximatifs statistiques entre 6 à 10 millions de morts. Le deuxième constat, c'est la presque inexistence d'une riposte effective de l'État face à ce constat malheureux. Et la problématique, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans un document de politique nationale de justice transitionnelle qui tienne compte de cette donnée, qui a beaucoup de victimes en RDC, qui a des guerres à répétition en RDC, mais qu'il n'y a pas assez de ripostes d'État pour freiner cet élan macabre. Et donc, le comité scientifique a travaillé pendant 3 mois pour rédiger un projet de politique nationale de justice transitionnelle en relevant que pour promouvoir la réconciliation nationale dans notre pays aujourd'hui et ainsi consacrer véritablement un état de droit, ce silence face aux millions de morts doit être brisé. Il faut absolument organiser une riposte du peuple congolais à travers les institutions du pays.
Et comment riposter face à ces fléaux?
Alors, le schéma international pour promouvoir la paix après un conflit armé qui perdure, comme c'est le cas chez nous, c'est de recourir à 4 étapes classiques et qui sont valables dans tous les états du monde. Dans une situation post-conflit, c'est 1. Il faut promouvoir la vérité. Et cela nécessite l'institution des commissions vérité et réconciliation. Deuxième option, c'est organiser les poursuites judiciaires effectives. À cela, nous avons identifié les difficultés que l'État congolais, à travers sa justice, a relevées jusque-là pour pouvoir poursuivre les différentes personnes concernées par les crimes internationaux. Donc, le comité a proposé des solutions judiciaires pour que l'État congolais crée les institutions et augmente le pouvoir de certaines juridictions de manière à organiser les poursuites véritables.
Et là, vous proposez, en ce qui concerne le pilier poursuite judiciaire, la création d'une cour pénale spécialisée.
Elle sera indépendante. La cour pénale spéciale devrait être une cour autonome. Par contre, à la Cour de cassation,
il existe des chambres mixtes.
On a suggéré l'institution des chambres mixtes spécialisées à la Cour de cassation pour corriger les défauts de l'article 71 ou 91 de la loi de 2013 qui prévoit que les crimes internationaux en RDC ne peuvent être poursuivis que par la Cour d'appel, mais concernant les seuls justiciables de la Cour d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux inférieurs. Donc, ça signifie que cette loi de 2013 exclut des poursuites les justiciables de la Cour de cassation. C'est une prime à l'impunité pour une catégorie de hauts dirigeants du pays, pour la plupart être censés comme étant considérés comme étant des donneurs d'ordre. Le troisième volet, c'est organiser les réparations. Pour les réparations, nous saluons la volonté du président de la République, la volonté du gouvernement d'avoir avoir promu l'élaboration et l'adoption de la loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles et des victimes d'autres crimes graves de droit international humanitaire. Mais cette loi qui a été adoptée le 26 décembre, ou même promulguée, je crois, cette loi organise les réparations des milliers de victimes. Donc il va falloir de l'argent pour l'État, pour le troisième volet, qui porte sur la réparation des victimes parce que la loi est organisée. Le quatrième et le dernier volet, c'est organiser les garanties des réparations. Quelles sont les mesures que l'État peut prendre pour que les crimes puissent être désormais être mis fin, pour qu'il n'y ait plus de poursuites et que les gens ne recourent plus à la guerre?
Et au gouvernement d'appliquer ce que vous proposez comme piste de solution. Pensez-vous qu'il y a cette volonté?
Je ne suis pas appelé à répondre à cette question. Je m'en tiens simplement à mon mandat. Moi et les membres du comité d'experts, c'est le gouvernement et les Nations Unies qui nous ont demandé d'élaborer cette politique. Et je considère que le fait pour le gouvernement de nous l'avoir demandé, c'est une expression de volonté politique. Parce que nous avons proposé un calendrier opérationnel, une feuille de route pour l'exécution de ce problème.
Comment chronométrer cette feuille de route?
Nous pensons que nous passons à une étape d'élaboration des différents projets de loi qui sont nécessaires pour que la politique de justice transnationale devienne opérationnelle avec les lois adoptées d'ici juin. Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président du comité scientifique chargé d'élaborer la politique de la justice transitionnelle en RDC. Le prof Emmanuel Louzolobambi est interviewé par Jeff Ngoy. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rungu Mushinji.